rester sur ce thème de ce que nous venons de faire, de cette sainte scène, à travers donc les versets que l'apôtre Paul a écrits aux Corinthiens pour leur parler de cette pratique, de se remémorer ce que le Seigneur a fait. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. L'apôtre Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous savez, l'apôtre Paul n'était pas un des premiers disciples, donc n'était pas apôtre comme les autres, qui, eux, avaient suivi Jésus les années où il était en train d'exercer son ministère sur terre. L'apôtre Paul, d'ailleurs, était, comme il dit, « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église. » L'apôtre Paul était un juif très orthodoxe, un juif qui, comme Jésus avait prévenu ses disciples, pensait qu'il servait Dieu en mettant à mort les chrétiens, en les entraînant en prison et en essayant d'éliminer la foi chrétienne, jusqu'à ce que, sur le chemin de Damas, lorsque il avait reçu des autorisations d'aller faire le nettoyage également à Damas, le Seigneur Jésus est apparu à lui. Il a arrêté dans ce qu'il faisait. Lui est venu se présenter à lui pour que Paul sache que Jésus n'était pas mort, mais ressuscité, qu'il était vivant. Et donc, pour transformer sa vie, en disant que maintenant, il allait changer de camp et au lieu de persécuter les chrétiens, Dieu allait l'utiliser pour ouvrir l'Église aux non-juifs. Donc finalement, comble d'horreur pour un juif aussi orthodoxe que l'apôtre Paul, penser que ce serait à travers lui que Dieu allait fonder une Église chez les non-juifs. Mais donc, après que Jésus s'est présenté à Paul, après sa conversion, donc après quelques temps, très court temps où il a prêché l'évangile dans Damas et puis dans la région, il s'est retiré vers sa région natale, même s'il était juif, il n'est pas né en Israël, il est né dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, il s'est retiré là-bas pendant quelques années, et là, le Saint-Esprit lui a remis l'ordre dans ses idées, dans sa compréhension des textes bibliques. Et donc, Paul peut dire à ces chrétiens de Corinthe, « Lorsque je vous ai enseigné au sujet de la Sainte Cène, ce que je vous ai enseigné, c'était ce que le Seigneur lui-même m'a révélé. » Et donc, c'est intéressant de voir, quand on compare avec ce qu'on trouve dans les évangiles, que finalement, même si Paul ne s'est pas appuyé sur ces textes-là, il a enseigné ce que le Seigneur lui avait donné. Effectivement, on voit que, donc, puisque le Saint-Esprit ne se contredit pas, tout ce que Paul avait dit se retrouve dans les récits de la Sainte Cène, tels que nous l'avons reçu de la part des autres apôtres et évangélistes. Donc, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, la Sainte Cène, c'est une occasion régulière de se rappeler de la mort du Seigneur. Donc, de se concentrer sur ce que Jésus a fait, sur la manière qui nous a sauvés. Donc, un repas, un acte qui a été inauguré donc, par Jésus lui-même. C'est Jésus qui a pris cette première fois le pain, qui a pris la coupe, qui l'a donnée à ses disciples, qui leur a fait cette annonce en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Mais même si c'était la première fois où ce repas avait ce sens-là, ce n'était pas la première fois où ce repas a été célébré, puisque Jésus n'a pas inauguré quelque chose de tout nouveau, mais il a pris ce qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Et il a montré comment l'Ancien Testament allait trouver son accomplissement en lui. D'ailleurs, pour cela que l'Église avait gardé l'Ancien Testament, puisque finalement, Jésus est l'accomplissement. Jésus lui-même, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir ce qui existait avant. Je suis plutôt venu pour accomplir tout ce qui a été annoncé dans la loi. » Et c'est donc ce qu'il a fait encore ce soir-là. C'était un repas, c'était le repas de la Pâque juive, repas donc annuel où les Juifs se réunissaient pour se rappeler de ce que le Seigneur avait fait pour leur nation, comment Dieu avait sauvé son peuple. C'était un repas avec des moments symboliques, avec des gestes symboliques, des éléments symboliques, un repas où, entre autres, on rompait du pain et le partageait ensemble, un moment où on partageait ensemble des coupes de vin. Et donc Jésus, en quelque sorte, montre l'accomplissement de ce repas dans sa personne, dans sa mort, ce repas mémorial qui était là pour rappeler ce que Dieu avait fait, comment le peuple juif existait encore. Et il donne un sens nouveau à ses actes. Il fait des gestes que les disciples connaissaient par cœur, il rompt le pain, sauf que maintenant, il dit, ce pain va vous rappeler que mon corps a été brisé. Comme moi, je brise le pain, mon corps sera brisé pour votre salut. Comme cette coupe contenant ce vin vous va maintenant vous rappeler mon sang donné pour vous. Et donc il dit à ses disciples de continuer. Il dit, d'accord, nous passons à une autre étape dans le plan de mon Père. Vous allez vous rappeler à travers ce repas que je suis votre salut, que c'est par mon corps brisé, par mon sang versé que vous êtes sauvés, mais vous allez continuer avec ce geste de mémoire, cet acte de mémoire que vous connaissez tellement bien en tant que juif. Vous allez continuer à le faire, sauf que maintenant, vous n'allez plus rappeler que le Seigneur vous a emmené hors d'Égypte. Vous allez vous rappeler que le Père a accompli son plan final, donc en vous sauvant à travers mon sacrifice. Vous allez penser à ce que moi j'ai fait pour vous. Et en faisant ainsi, il dit, vous vous souviendrez de ce que j'ai fait et vous allez annoncer ma mort. Comme acte fondateur de l'Église, c'est quand même étrange, n'est-ce pas? De demander à l'Église de continuer régulièrement de tels repas pour se rappeler la mort de son fondateur. Pour se concentrer sur la mort de son fondateur, de son Seigneur. Pour certains, ça pourrait être compris comme un moment de défaite. Surtout au moment où Jésus dit ça à ses disciples, il est encore là avec eux, il n'est pas encore mort. D'ailleurs, la Bible nous dit que jusqu'au bout, ils n'ont pas compris. Quand on voit la réaction de Pierre, soit dans le jardin de Gethsemane, qui dit « mais on ne va pas les laisser arrêter le Seigneur », qui sort son épée, qui tranche l'oreille du serviteur en disant bah, « on va se battre, on ne va pas se laisser faire comme ça ». Ou après, qui abandonne le Seigneur parce que ça lui semble inimaginable que Jésus aille jusqu'à la mort. Et pourtant, Jésus dit, je veux que chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous vous rappelez que moi je suis mort. Ce serait bizarre si ce n'était que la mort de Jésus est unique et mérite donc que depuis maintenant plus ou moins 2000 ans, les chrétiens se rappellent régulièrement et l'annoncent régulièrement à travers ce moment de partage du pain, de la coupe, pour se rappeler la mort du Seigneur. La mort de Jésus donc est unique, unique de par ses conséquences. On peut à la limite imaginer vénérer une mort en martyr ou une mort en héros et se dire bon bah là c'est quelque chose qui mérite d'être remémoré. Généralement ce genre de mort dit long sur la personne et donc on voit une certaine valeur et on se dit bon bah oui, on comprend que les gens ne veulent pas oublier ce genre de personne, ce genre de mort. Mais Jésus par contre, pourquoi est-ce que on repasserait en mémoire une telle mort? La mort de Jésus, ce n'était pas une mort de héros. La mort de Jésus, c'était la mort banale d'un criminel. Jésus n'est pas le seul à avoir été crucifié par les Romains. Il y avait parfois des centaines, voire des milliers de croix qui traînaient sur lesquels des criminels avaient été exécutés. D'ailleurs, le jour de sa mort à lui, Jésus est juste un de trois criminels crucifiés à l'extérieur de la ville, morts en criminel avec deux brigands, crucifiés comme toutes ces autres personnes. La question avait une fois été posée. Est-ce qu'on voudrait vraiment décorer nos maisons ou porter autour du cou ou sur nos vêtements une petite potence ou une petite chaise électrique, puisque finalement la croix pour l'époque n'était rien de plus. C'était le moyen d'exécuter des criminels. Et pourtant, on revient là-dessus régulièrement. On se concentre sur la croix. On se concentre sur cette mort, sur la croix. Mais il y avait tout de même une grande différence entre la mort de Jésus et la mort d'un héros ou d'un martyr. Généralement, une fois qu'une personne est morte, elle ne peut plus rien faire. Même si on meurt en héros ou en martyr, une fois qu'on est mort, c'est fini. On ne peut plus rien changer après, plus rien faire pour les autres qui restent. Que ce soit des amis, des fidèles, on ne peut pas les aider une fois qu'on est mort. On voit d'ailleurs, c'est bien ce que pensaient ses disciples au moment de sa mort. Eux, justement, ils devaient à ce moment-là être en train de se demander mais dans quel but, à quoi bon faire ce geste en mémoire de sa mort? Ça va juste nous rappeler que c'est fini, que tout est terminé, qu'il n'y a plus d'espoir. En Luc chapitre 24, on voit les pensées des disciples exprimées par les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Luc 24, verset 17, donc Jésus qui, sans qu'ils s'en rendent compte, se joignent à eux sur la route et qui leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et les disciples s'arrêtèrent, l'air attristé. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Mais quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Et ils ont dit, ben, une fois qu'il est mort, il n'y a plus d'espoir. Il ne va plus pouvoir nous sauver, il ne va plus pouvoir établir le royaume de Dieu. On a cru en lui, mais voilà, maintenant il est mort. Les paroles de Jésus devaient donc résonner bizarrement dans leur cœur. Faites ceci en mémoire de moi. D'accord, mais il est mort. On va juste se rappeler que tous nos espoirs sont tombés à l'eau. Que finalement, on ne verra pas le royaume de Dieu. Que les méchants, entre guillemets, ont gagné. Sauf que la Bible nous dit qu'au lieu d'être la fin de son ministère, la mise en échec de tout ce qu'il avait annoncé, la Bible nous dit que c'est justement par sa mort que Jésus a accompli le plan du Père et qu'il apporte le salut à ses disciples. Pour ça qu'il nous demande de faire ceci en mémoire de lui. Si nous regardons toujours dans le livre d'Ésaïe, dans ce descriptif du ministère du serviteur, donc du Messie, dans Ésaïe 53, à partir du verset 4, où on peut même commencer dans le verset 3, où il est décrit comme méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'était le cas de ses deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ils ne faisaient plus aucun cas de Jésus. On a tellement espéré en lui, mais voici maintenant 3 jours qu'il est mort. C'est fini. Cependant, dit Ésaïe, ce sont nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'était justement cette mort sur la croix qui allait rendre la possibilité d'être en paix avec Dieu possible. Donc Colossiens chapitre 1, versets 21 et 22, Paul écrit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » C'était justement par la mort bien au loin d'être la fin de tous les espoirs, de tout le projet de Dieu en Jésus-Christ, c'était justement le moyen nécessaire pour accomplir son projet, pour que nous puissions être saints, pour que nous puissions être en paix avec Dieu, pour que nous puissions entrer dans ce royaume. La Bible nous dit que toutes les bénédictions que nous avons en tant que chrétiens et toutes les bénédictions que nous aurons lorsque son règne vienne dépendent de sa mort. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 13, nous dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, comme c'était écrit dans l'Ancien Testament, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Et par la suite donc, il dit, il était nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient, par des sacrifices plus excellent que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, comme le tabernacle ou le temple de l'Ancien Testament. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire, pour offrir un autre sang que le sien. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Tout ce que nous avons donc découle du fait que Christ est mort pour nous. Tout notre salut découle du fait qu'il a accepté de mourir, comme Paul le décrit dans Philippiens chapitre 2, en parlant de celui qui s'est fait vrai homme, qui a quitté le ciel, qui s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour accomplir le plan de Dieu. Donc finalement, la Bible nous dit, nous recevons, si nous sommes chrétiens, si on met notre foi dans sa mort, si on se repent de nos péchés et on s'accroche à la grâce de Dieu offerte en Jésus-Christ, nous recevons les mérites de sa justice. Notre salut en dépend. Notre salut ne dépend pas du nombre de bonnes œuvres que nous arrivons à présenter à Dieu. Sinon, on serait perdu éternellement si ça dépendait de nous. Puisque la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une chose, une seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est la perfection complète. si vous n'avez pas la perfection complète à chaque instant de votre vie, depuis la naissance jusqu'à la mort, la Bible dit, il n'y a aucun espoir. Sauf pour celui qui se reconnaît pécheur, qui vient à Dieu avec un cœur contrit, avec un cœur brisé, et qui dépend comme seule justice de la mort de Jésus, de son obéissance parfaite en allant jusqu'au bout du plan de son Père. Et c'est pour ça aussi que Jésus disait, chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, faites ceci en mémoire de moi. Puisque finalement, notre chair, notre nature humaine, essaye tellement facilement à s'approprier la gloire, à se donner une petite part de mérite, en disant, oui, Jésus est mort, mais bon, c'est puisque je suis finalement meilleur que des autres que je suis sauvé. Mon statut devant Dieu dépend du fait que je suis tellement bien. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, détrompez-vous, c'est seulement, uniquement et purement par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu qu'on accepte par la foi qui implique la repentance. Et Romains 5 nous dit, nous sommes maintenant en paix avec Dieu par sa grâce, par le moyen de la foi, mais nous devons à Jésus, nous avons une dette vis-à-vis de Jésus qui nous permet d'avoir accès à cette grâce que Dieu nous fait pour nous sauver. Normal de se rappeler de sa mort, puisque sa mort nous permet de vivre ses conséquences. Normal également de se rappeler, de se concentrer régulièrement en tant qu'Église sur la mort de Jésus à cause de la suite. Lorsque Jésus parlait avec ses deux disciples sur la route d'Emmaüs, quelque part, il aurait dû avoir une petite sonnette qui sonnait dans leur tête quand il lui parlait. Il disait, maintenant c'est fini, voici déjà 3 jours depuis qu'il est mort. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Il fallait que le Fils de l'homme soit malmené, maltraité, mis à mort par les autorités, mais le 3e jour, il ressusciterait d'entre les morts. Cela leur semblait tellement inimaginable à l'époque que même en disant, ben voici le 3e jour. Bon, c'est vrai que quelques femmes nous ont dit que lorsqu'elles sont arrivées, il n'y avait plus de cadavres dans la tombe, et qu'elles l'ont rencontré et parlé avec lui, mais bon, on pense que c'était le choc émotionnel, ça les a déstabilisés, elles ne savent pas trop ce qu'elles disent. Quelle foi, n'est-ce pas? Le 3e jour, c'est la preuve que c'est fini. Mais maintenant, pour nous qui avons les récits des témoins de l'époque dans le Nouveau Testament, impossible de se concentrer sur la mort de Jésus sans penser justement à ce qui s'est produit 3 jours plus tard. Au fait que la mort n'était pas la fin, que la mort, au lieu d'être la fin de toutes les espérances, ce n'était que un point de départ vers la vie éternelle. Puisque donc, 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Chose qui normalement n'arrivait pas aussi bien que soit la personne en question. Acte 2, verset 29, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre prêche, il dit, ben, frère, permettez-moi de vous rappeler. Lorsque David parle ici, ben, il n'est pas en train de parler de lui-même, puisque David, on sait qu'il est mort. On a même sa tombe qui est toujours là. On peut aller la visiter, on peut faire pèlerinage jusqu'à sa tombe, on sait qu'il est mort. Mais Jésus, lui, il n'est plus dans la tombe comme David. David, lorsqu'il parle du serviteur de l'Éternel, qui ne verra pas la corruption. Il ne parlait pas de lui-même, il parlait de ce serviteur, de ce Messie à venir, ce descendant de David, qui lui n'allait pas rester dans la tombe, mais qui allait ressusciter. Pour l'instant, là aussi, Jésus est unique. La Bible nous dit, il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. On dit, mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est le premier à ressusciter, mais il ne sera pas le dernier. C'est aussi une des conséquences de sa mort. Là aussi, tout découle de lui. 1 Thessaloniciens 4, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Nous, l'apôtre Paul dit, ça transforme complètement notre relation avec la mort. Puisque ce n'est pas la fin, comme ce n'était pas la fin pour Jésus, puisque il n'y a pas seulement le jour de notre naissance, de notre mort, il y a aussi le jour de notre résurrection. Amen. Il y a le jour de la résurrection de Jésus, mais il y a aussi la nôtre. Nous attendons, nous dit la Bible, ce jour-là, lorsque Jésus va revenir, et à ce moment-là, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour le retrouver et pour vivre dans son règne. Il y a quelques jours, il y avait donc l'enterrement de Jean-Paul. Mais un jour, le trou dans lequel on a posé Jean-Paul sera vide. Puisque donc la Bible dit, tous ceux qui croient en Jésus ressusciteront. Il y a quelques mois, j'ai ramené ma mère, quand j'étais en Angleterre, voir la tombe de mon père. Elle était contente de voir qu'à droite comme à gauche, il y avait donc des pierres tombales comme la sienne avec une référence biblique dessus, parlant de cette espérance éternelle que nous avons en Christ. Ce qui veut dire que le jour où Jésus reviendra, ben là il y a au moins 3 tombes ensemble qui vont s'ouvrir, puisque donc nous avons cette espérance éternel en Jésus-Christ, que la mort n'est pas la fin, mais que nous sommes appelés à ressusciter. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre va dire, c'est pour ça que ça compte ce que nous faisons avec notre corps en tant que chrétien. On ne peut pas dire, oh ben, de toute façon, c'est pas grave, parce que tout ce que je fais avec mon corps, c'est juste matériel. Paul dit, ben non. Votre corps sera éternel, puisque même si notre corps décède et pourrit sous terre une première fois, ça sera reconstitué par le Seigneur le jour où Jésus reviendra pour qu'on soit ressuscité. Et nous vivrons éternellement dans un corps glorifié comme lui. Donc il dit oui, ça compte ce qu'on fait dans notre corps. Puisque c'est avec ce corps que nous allons louer le Seigneur éternellement. Donc, Paul dit, important de se rappeler de la mort de Jésus. Rappelez-vous que Jésus a dit, faites ceci régulièrement en mémoire de moi, puisqu'ainsi on se rappelle que Jésus est mort pour nous. On se rappelle que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et on se rappelle que ce Jésus vivant va revenir pour que nous aussi, on soit appelés à ressusciter pour vivre avec lui éternellement. Et c'est important, donc, de se rappeler cette espérance que nous avons grâce à et en Jésus-Christ. Puisque Paul va dire dans Romains chapitre 8, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Tout le but, tout le fondement, le socle de notre salut, c'est l'espérance éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, grâce à son retour à venir. Donc souvent, lorsqu'une personne meurt, On encourage les proches à tourner leurs pensées vers de bons souvenirs de leur vivant. Rappelez-vous comment il était. Rappelez-vous les temps que vous avez pu passer ensemble. Rappelez-vous les choses que vous avez fait ensemble. Et consolez-vous avec ces pensées-là. Jésus dit, rappelez-vous surtout ma mort. Parce que ma mort est le fondement de tout. Ma mort est la garantie de votre salut. La mort vous rappellera aussi que je suis ressuscité. Je ne suis pas resté ni sur la croix ni dans la tombe. Mais je vis maintenant à la droite du Père, d'où je vais venir pour vous. Faites ceci donc en mémoire de moi. Annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, puisque cette mort est centrale à l'Évangile. Cette mort est centrale à notre foi. Cette mort est centrale à notre vie.